Alors, je vais d'abord essayer de définir un petit peu les termes pour vous situer les choses. D'abord, ce qu'on peut appeler les missions. Les missions, c'est pas seulement des lieux de mission, c'est aussi et surtout la conversion au catholicisme d'une part et l'évangélisation des populations d'autre part. Ici, dans le cadre andin, hein, je vais le prendre dans le cadre andin plus particulièrement. Mais donc aussi bien dans le cadre des territoires conquis et colonisés par les Espagnols que dans leurs marges et dans ces marges. Mission donc qui donc se définit de manière extrêmement large, qui est surtout et avant tout la justification et de la conquête hein, d'une part et des justes titres des Espagnols en Amérique, donc c'est extrêmement important, je reviendrai là-dessus. Et puis, ce qu'on peut appeler des élites urbaines. En Amérique, la présence espagnole se manifeste donc principalement par la construction de villes. Très rapidement, ces villes se sont dotées d'institutions municipales, selon le modèle péninsulaire. On a donc des cabildos, et c'est ça qui est intéressant, dont font partie les premiers fondateurs des villes, et qui détermine aussi l'appartenance à ce qu'on peut appeler l'élite, entre guillemets. Alors c'est surtout une population d'anciens conquistadors, et puis par la suite aussi éventuellement des marchands, des hommes de loi qui sont admis dans ces cabildos. Comme en Espagne, et je tiens à le souligner, l'appartenance à ce cercle étroit des cabildos définit l'appartenance à une élite qui se veut hidalga, c'est-à-dire noble, et qui cherche à ressembler à la noblesse hispanique. Ce sont aussi des choses importantes. La fortune de tous ces gens repose principalement donc sur la possession de l'encomienda, c'est-à-dire l'accès aux tribus et à la main-d'œuvre indigène, mais aussi sur des activités agricoles et minières très diverses. Donc ce sont des urbains, parce que le lieu de vie des Espagnols en Amérique est par définition la ville, même s'ils possèdent des terres et des maisons dans les campagnes. Je vais vous montrer un petit schéma aussi de l'encomienda tout à l'heure, vous allez voir comment ça se structure. Quels sont les rapports entre ces élites et les missions d'évangélisation? C'est tout simplement déjà que un des devoirs des encomenderos, c'est de participer à l'évangélisation des Indiens. Donc on va voir que comment se concrétisent ces participations entre le moment de la conquête et la fin du XVIe siècle, hein, parce que ça va être surtout sur ce moment-là que je vais m'attarder. Et puis, par ailleurs, les ordres religieux, et c'est aussi quelque chose qui fait partie du travail de recherche que j'ai mené jusqu'ici, sont censés procéder à cette conversion, sont censés procéder à l'évangélisation, à l'encadrement, recrutent leurs membres, hein, une partie de leurs membres, dans ces élites urbaines. Et donc, c'est dans ces deux sens que je vais prendre le lien entre mission et élite urbaine dans les Andes. L'enjeu principal de ce rapport, c'est, je pense, le lien qu'il y a avec la question des clivages sociaux qui est posée dans cette journée d'études. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Ici, c'est le clivage, le critère religieux dans la mise en ordre de la société coloniale. Une société qui est en train de se mettre en place, qui se définit dans les Andes dans la seconde moitié du XVIe siècle, à partir de composantes indigènes, espagnoles, africaines. En même temps, elle est en train de se pacifier, ou en tout cas elle entre dans une période de pacification après une période de guerre civile très violente, hein, ce qui la distingue quand même de la société mexicaine. Des guerres entre conquistadors, mais aussi entre conquistadors et la couronne. Par conséquent, la question de la conversion au catholicisme et aussi du respect de l'orthodoxie n'est pas uniquement un problème religieux. Le fait de définir une population à convertir ou en cours de conversion devient aussi un des éléments fondamentaux de la justification de la domination des Espagnols dans la société hispano-américaine. Et donc, c'est pas juste une donnée théorique formulée par la monarchie, le fait de convertir les Indiens constitue une justification. C'est aussi une problématique qui a des aspects très concrets dans la société, qui détermine les choix des acteurs au moment de formuler la manière dont ils se conçoivent et dont ils conçoivent leur place dans la société. Plusieurs entrées sont possibles pour aborder cette question, qui est largement déterminée aussi par les sources, hein. L'entrée missionnaire est une de ces une manière, parce que il est indispensable de comprendre les multiples sens de la mission pour comprendre comment les élites se positionnent par rapport à ce phénomène. Et puis, parce que le missionnaire est lui-même un membre des sociétés coloniales urbaines. Hein. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on a quand même beaucoup tendance dans les études à supposer que le missionnaire est une espèce de figure soit totalement, effectivement, imbriquée dans des rapports politiques, etc., à partir du moment où on étudie des crises, etc., et donc on oublie éventuellement sa dimension missionnaire, soit c'est juste un des acteurs de ces sociétés, et à l'intérieur du groupe des missionnaires ou des groupes des jésuites, il peut y avoir également aussi des dissensions. Donc. Alors ça, c'est un des éléments. Donc le missionnaire est un membre de cette société coloniale urbaine. Et puis la question du financement des ordres religieux missionnaires, c'est aussi le moyen, c'est la deuxième, en gros, la deuxième manière d'entrer dans cette question pour comprendre les enjeux de la conversion pour les élites urbaines. C'est-à-dire, à partir du moment, ce sont les élites urbaines qui participent au financement de ces ordres religieux. Et donc, assez logiquement, puisque c'est là-dessus qu'a porté ma thèse, je vais prendre comme point d'observation la Compagnie de Jésus, mais je donnerai quelques pistes sur d'autres ordres religieux. Alors, pour travailler sur ce rapport, je vais d'abord vous parler des cadres de la conversion, et puis je vais vous évoquer donc la question de la vocation missionnaire à l'intérieur de la Compagnie de Jésus dans une deuxième partie. Et enfin, dans un troisième temps, je vais vous parler du financement donné pour la mission. Alors, d'abord, les cadres de la conversion, premier élément. Donc, la conversion, c'est donc au cœur de la justification de la conquête. C'est l'argumentaire de la codomination coloniale. Enfin, ça fait partie intégrante. Et ici, à l'époque, ça signifie se convertir au catholicisme romain. Hein. Dans un contexte de confessionnalisation en Europe et donc dans un contexte de pluralité religieuse en Europe. Donc c'est bien au catholicisme romain qu'on convertit les Indiens, ou en tout cas qu'on tente de le faire. Et c'est aussi pour les acteurs, c'est convertir, c'est pas uniquement une question religieuse, c'est aussi contraindre à une vie en société, entre guillemets, qui correspond à des canons hispaniques. Donc imposer aussi des cadres politiques, urbains, qui évitent la dispersion de la population, qui permettent d'exercer un contrôle étroit et qui servent aussi à administrer la population d'un point de vue socio-économique. Hein, administrer la population pour le paiement du tribut, l'administrer aussi pour la contrainte à travailler. Donc, encomienda, conversion et doctrine d'Indien, c'est en gros l'un des aspects importants. La conquête a lieu en 1532 dans les Andes et ça prend des formes, cette domination et cette conversion prend des formes qui évoluent dans le temps. Donc dans les Andes, on a d'abord une période assez confuse, donc avec l'institution de l'encomienda qui sert de cadre principal à l'encadrement des populations au départ et à leur évangélisation. Alors qu'est-ce que c'est que l'encomienda? Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est une délégation à des conquistadors ou assimilés, du prélèvement du tribut et de la main-d'œuvre indigène. Donc c'est pas un droit sur la justice, c'est pas non plus un droit sur les terres. Ce sont des droits sur des individus et des groupes. Dans ce cadre, et surtout dans les tout premiers temps, les encomendelos engagent des curés. C'est-à-dire comment participent-ils à la conversion des Indiens? Ils engagent des curés, soit des curés séculiers. Et il y a des électrons libres qui se promènent en Amérique dès le début, hein. Ils ne sont pas tellement officiels. Et puis aussi des membres des ordres mendiants qui encadrent donc religieusement les populations. Ces premiers balbutiements de la conversion, en tout cas pour les Andes, sont assez mal connus. Hein. Le livre le plus complet là-dessus, c'est celui de Juan Carlos Estenssoro Fuchs. Sur cette première période et montre bien qu'il y a une grande difficulté à comprendre exactement comment ça s'est passé. C'est chaotique et c'est aussi un moment où les Espagnols, aussi bien les encomendelos que les curés, ont parti liés pour exploiter les Indiens. Et donc on a là une collusion assez forte entre l'encomendero et le curé. C'est la raison pour laquelle Et Las Casas, c'est les gens qui le suivent, hein, aussi beaucoup de Dominicains au Pérou, estiment, sans doute avec raison, que ces encomenderos sont un obstacle à l'évangélisation et qu'il faut soustraire les Indiens à leur emprise. C'est dans ce cadre-là aussi, évidemment, ce n'est pas uniquement à cause de l'exemple péruvien, mais tout de même, Las Casas n'y est pas allé, mais il avait beaucoup d'informateurs sur le Pérou. Les lois nouvelles sont promulguées donc en 1542, qui visent à limiter le pouvoir des Espagnols sur les Indiens. Alors, par la suite, on a donc, à partir des années 1548-1550, à la fin des guerres civiles, des institutions qui s'installent, des règles qui sont promulguées sur la nomination des prêtres, la hiérarchie ecclésiastique qui s'en mêle, les évêques qui deviennent plus puissants, et des institutions civiles qui sont aussi créées, en partie pour convertir les Indiens, évidemment, pour les protéger des exactions des encomenderos, et pour mieux les contrôler. Alors, c'est comme ça que s'organisent, à partir des années 1570, de façon beaucoup plus nette, des paroisses indigènes qu'on appelle doctrinas, sous les gouvernements de Francisco de Toledo, qui est le vice-roi. Des curés de doctrinas sont, à la base, surtout des membres des ordres mendiants, dominicains, franciscains, augustins. Et donc, les missions, c'est quoi? C'est cet encadrement des Indiens dans des paroisses spécifiques, généralement rurales, mais aussi leur encadrement dans le cadre des villes, avec des paroisses ad hoc, des quartiers spécifiques, hein, mais aussi dans les villes des confréries d'Indiens, qui méritent encore d'être étudiées plus en détail. Aujourd'hui, ce n'est pas encore assez étudié sans doute. Les jésuites arrivent donc dans les Andes dans ce contexte-là, une période donc dans laquelle les autres ordres religieux sont déjà bien installés, et que font-ils? Ils refusent de prendre en charge les paroisses indigènes. Et ils se consacrent à une activité de conversion à l'intérieur des espaces urbains, où ils font des collèges. Ils font aussi des missions volantes. Donc ils arrivent en 1568, et on a, dans les années 1640, un nouvel élan missionnaire. Là, je vous ai mis quelques chiffres, je vous en donnerai d'autres. En 1576, ils sont 73. En 1637, ils sont 490, hein, pour donner une idée un petit peu de la croissance de l'ordre dans cette grande province qui en fait va en gros depuis Panama en passant par Quito, Lima, La Plata, Santiago et évidemment toute la zone du Paraguay. Une activité de mission dans les espaces urbains. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme activité? C'est ce qu'on appelle les missions volantes, des missions aussi dans les espaces frontaliers. Dans les années 1610, ils participent à ce qu'on appelle les visites d'extirpation des idolâtries dans les campagnes du diocèse de Lima. Et pendant tout le XVIIe, ils continuent à faire ce qu'on appelle des missions volantes, c'est-à-dire des excursions à la mode européenne, hein, en fait, hein, des missions rurales. Ce qui fait que la question missionnaire, ou en tout cas l'investissement missionnaire des jésuites, n'est pas réductible aux réductions des Guaranis, c'est aussi, ou des Mojos par la suite, c'est aussi une activité missionnaire assez régulière dans le cadre de la vice-royauté, enfin en tout cas dans le Pérou central. Alors, ils ont aussi, c'est comme ça qu'ils entrent en contact en fait avec les paroisses, avec les prêtres des paroisses qui eux sont installés depuis un certain temps. Et puis, ça leur permet éventuellement de contrôler un minimum ce qui se fait dans ces paroisses. Par ailleurs, ils ont quand même accepté de prendre en charge au moins deux paroisses d'Indiens. Une dans le quartier indigène de Lima, Santiago del Cercado, dont je vous ai parlé, et puis une autre dans l'Altiplano, qui s'appelle Juli, sur les bords du lac Titicaca, en Bolivie actuelle. Alors, ces lieux sont des centres d'apprentissage des langues indigènes, quechua et mara, principalement. Certains jésuites y séjournent pour des périodes déterminées, mais pas tous. Et à Lima et à Cusco, on a deux collèges pour fils de caciques qui sont fondés dans les années 1610 et donc qui ont été bien étudiés qui forment l'élite indigène catholique qui sert d'intermédiaire avec les Espagnols. Donc une géographie de la présence jésuite dans les Andes qui suit la trame urbaine plus ou moins espagnole qui est installée. Et quel est l'impact finalement de cet ordre? C'est d'orienter l'évangélisation par son activité intellectuelle. Ils forment une partie du clergé dans leur collège, Ce clergé qui va prendre en charge les paroisses, bah, il est formé aussi dans les collèges de la Compagnie de Jésus, avant l'entrée à l'université. Ils construisent aussi une grande partie des instruments linguistiques et pratiques de l'évangélisation, dictionnaire, art de la langue, recueil de sermons, et également, ils sont jury d'experts linguistiques, hein, c'est-à-dire ce sont eux qui vont éventuellement participer au concours, au jury de concours, en gros, des curés qui postulent pour des bénéfices. Et donc, ils ont une dimension d'experts. Donc, sans participer directement à l'encadrement des Indiens dans les différentes paroisses, ils ont une vision surplombante, en quelque sorte, en tant qu'experts, avec des figures importantes comme José de Acosta, jusque dans les années 1580, ou des missionnaires comme Alonso de Barzana, qui est un grand linguiste. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu le panorama général. Maintenant, est-ce que ces jésuites sont tous missionnaires, et est-ce que c'est une évidence d'être missionnaire quand on appartient à la Compagnie de Jésus au Pérou? Ça relève de l'évidence, hein. Le roi finance des expéditions de religieux, veille à ce que les seuls ordres missionnaires puissent passer aux Indes occidentales, exclut les ordres contemplatifs, par exemple, dès les débuts de la conversion, et les premiers religieux à passer en Mésoamérique sont des franciscains réformés. Alors, la mission est-elle une évidence? C'est une évidence, mais ça mérite qu'on s'y arrête. Pour les franciscains et les dominicains, on est dans une tradition de présence au monde et auprès des fidèles par la prédication et l'enseignement de la foi. Ça relève d'une évidence. Pour les jésuites, il s'agit de répondre au quatrième vœu, celui d'obéissance au pape, qui concrétise en fait l'engagement missionnaire d'Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre, définitivement fondé en 1540, donc c'est un ordre récent, je le rappelle, et un ordre de la réforme catholique, évidemment. Donc, pour le coup, il y a une évidence absolue. Bon, la conversion fait partie intégrante des tâches que doivent assumer les jésuites. Leurs choix ne sont pas toujours compris par les Espagnols, par les autorités. Le refus de prendre en charge des paroisses indigènes, par exemple, est très, très mal pris par Francisco de Toledo dans les années 1570, ce qui fait qu'il les refuse qu'on fonde des collèges, ou en tout cas, il refuse d'entériner la fondation de collèges, notamment celui de La Paz ou d'Arequipa. Les jésuites ne sont pas d'accord sur les priorités eux-mêmes. Hein. Certains estiment que c'est plus adéquat de se consacrer à l'éducation des élites locales, craignent par exemple la liberté dont bénéficient les missionnaires de l'ordre, qui restent souvent très longtemps loin des collèges et de la vie de la communauté. Donc on a des textes assez acerbes sur le fait que les missionnaires qui partent tout le temps en mission volante sont plus du tout réductibles à l'obéissance dans le cadre des collèges, ce qui paraît logique, mais n'empêche que voilà, ça fait de grosses frictions à l'intérieur de l'ordre. Même la fondation des missions du Paraguay fait débat au début du XVIIe siècle. On pense qu'il faut les laisser aux Brésiliens, enfin aux jésuites du Brésil, parce que c'est aux côtés de la frontière. Et du Pérou, ça semble très très loin. On a des clivages donc très importants entre les partisans du développement des langues missionnaires et ceux qui préfèrent le commerce des Espagnols et le séjour dans les villes. C'est quand même plus tranquille que d'aller dans l'altiplano se promener. Donc depuis Rome, le général Acquavivar tente d'orienter la politique missionnaire et prend en général le parti des missionnaires. C'est-à-dire qu'en gros, il faut développer l'activité missionnaire. C'est pour ça qu'on nous a envoyés là-bas. Il hésite de temps en temps et ça pose des problèmes. Tout ça est bien résumé. Mais voilà, cette question des priorités, en fait, ce n'est pas quelque chose de spécifique aux jésuites du Pérou. Hein. Ça se pose dans toutes les provinces jésuites. Ça engage, du point de vue de l'histoire interne de l'ordre, en fait, celle de la distinction et de la hiérarchie des talents et des activités. Hein. C'est un ordre qui est extrêmement attentif à la façon d'employer ses membres. Il faut que les gens soient consentants pour les activités. C'est très important parce que comme ça, ils seront consolés. Ça fait partie de la philosophie même de la distinction, enfin des talents à l'intérieur et de l'attribution d'activités aux uns et aux autres. Mais plus largement, elle engage quand même la question de l'unité de l'ordre dans la dispersion. Ah, c'est un ordre qui est présent jusqu'au Japon à cette époque. C'est un ordre qui, là, se confronte en fait à son ambition mondiale tout en s'adaptant aux sociétés dans lesquelles il s'établit. Et c'est pourquoi, quand on s'intéresse à cette question de la mission et de l'engagement missionnaire des religions en Amérique, c'est très important de prendre en compte que, d'une part, ils s'intègrent dans la société coloniale, ces jésuites, mais aussi, ils incorporent cette société coloniale à l'intérieur de la compagnie, à travers le recrutement local. C'est pour ça que je vais vous parler un petit peu du profil des missionnaires jésuites. Qui sont les missionnaires ? À partir des catalogues, ça, ce sont des sources qui sont à Rome. Catalogo general de los colegios, residencias y misiones de los padres y hermanos de la Compañía de Jesús de la provincia del Perú, con el padre Diego de Torres, procurador. Les catalogues du personnel qui existent sur tous les trois ans. Un catalogue qui est envoyé à Rome, dans lequel on explique d'où viennent les gens, comment ils s'appellent, quel est leur statut, quel est leur âge, quand ils sont entrés dans la compagnie, quelles ont été leurs activités et à quoi ils sont bons. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, vous avez ça, c'est le catalogue public, où il y a le nom. Et puis, vous avez le même en catalogue secret, c'est-à-dire où il y a juste les numéros et où il faut se repérer, hein. Et vous avez ce qu'ils appellent la complexion naturelle, c'est-à-dire est-ce qu'il est mélancolique, sanguin, etc. Et puis, quelles sont les activités auxquelles il est bon. Et donc, on va éventuellement... Est-ce qu'il a de bonnes forces? Est-ce qu'il est en bonne santé? Et où est-ce qu'il est vraiment nul, quoi, aussi, hein, parce que ça arrive assez souvent. Et puis, s'il est très, très vieux, il est plus bon à rien... voilà, parce qu'il y a des gens qui, bon, en fait, on vieillit assez bien dans la compagnie de Jésus, à moins d'attraper une maladie, on vit assez vieux, hein. Donc, j'ai pas fait une étude statistique démographique absolue, mais on trouve quand même des gens qui sont très âgés parmi ces jésuites. Bref, entre 1576 et 1637, c'est ça à peu près le cadre chronologique dans lequel j'ai travaillé, le nombre de jésuites est multiplié par 4, mais le nombre de missionnaires est seulement multiplié par 2. Déjà, le nombre de gens dont on dit qu'ils ont ou ils ont eu des activités missionnaires, parce que c'est comme ça qu'il faut prendre les chiffres. Puisque c'est à partir des catalogues. Alors, le nombre de membres de la ensuite, dans la période suivante, vous avez un nombre total donc qui passe de 280 à 490. En gros, c'est multiplié par 1,7. Et puis, ça s'inverse. Le nombre de missionnaires, lui, est multiplié par 3. On passe de 49 à 152. Donc, on a une sorte de croissance importante de la population missionnaire, ou en tout cas dite missionnaire, à l'intérieur de l'ordre. Même si la croissance de la population donc de l'ordre connaît une forte progression au XVIIe, le problème, c'est que ceux que les catalogues appellent des ouvriers d'Indiens, c'est comme ça qu'on les nomme en général, sont toujours une minorité. Hein. Comme l'un d'eux le dit au général en 1637, « Son muy pocos los que quieren emplearse en esto ». L'ouverture de la compagnie donc aux Espagnols d'Amérique, hein, parce que c'est vraiment aux Espagnols d'Amérique hein, que ça s'ouvre, est une question assez complexe. La proportion d'Américains créoles, donc, s'accroît faiblement pendant le dernier tiers du XVIe siècle. Hein, ça va assez lentement, malgré tout. Et puis, on voit bien, ensuite, que le nombre d'Américains double entre 1601 et 1613, puis est multiplié par 5 entre 1613 et 1637. Donc, vraiment une progression exponentielle, on va dire, jusque dans ce premier tiers du XVIIe. Une grande ouverture, donc, qui explique... par l'enracinement des Jésus dans la société coloniale, à travers des fondations de collèges et de résidences dans la plupart des villes, comme vous avez pu le voir, le développement démographique de l'ordre ne pouvait pas dépendre uniquement des expéditions européennes, c'était pas possible. Et dans les premières années, les Américains, certains étant métis, ont été surtout admis parce qu'ils pouvaient être utiles à l'activité missionnaire. Ils savaient les langues indigènes. Ils avaient une expertise linguistique. Mais on se méfie des créoles et on se méfie beaucoup des métis. Donc les métis ne sont plus admis officiellement à partir des années 1580-1590, sachant que après, on ne peut pas savoir s'ils étaient métis ou non, ce qu'on avait admis, puisque personne ne dit qu'ils étaient métis, mais ils peuvent être métis sans qu'on le dise. Donc pour le coup, ce n'est pas mesurable. Alors, l'analyse des catalogues montre surtout que les créoles ont des ambitions. Ils atteignent des niveaux d'études qui leur permettent d'accéder à la prêtrise et au grade de professe de quatre vœux. C'était le grade le plus élevé dans la Compagnie de Jésus. Alors que ils sont peu nombreux parmi les coadjuteurs temporels, c'est-à-dire parmi les jésuites, en gros, qui sont, si vous voulez, c'est l'équivalent du tiers ordre dans la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas prêtres, mais qui ont fait des vœux et qui ont des tâches manuelles. Et ils sont peu nombreux, les créoles, parmi cette catégorie de jésuites. Ils sont plus nombreux parmi les professes de quatre vœux. Donc, en gros, leurs ambitions, ça n'est pas de faire la cuisine, si on comprend leur place dans l'ordre. Ça ne signifie pas que les créoles étaient particulièrement attirés par les tâches missionnaires. On constate qu'en 1613, ils ne sont pas majoritaires parmi les missionnaires, 26% d'Américains parmi les obreros de Indios, alors qu'ils sont plus importants, ils le deviennent dans le catalogue de 1637. Ce qui se passe quand on analyse ces catalogues, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, en 1637, l'activité missionnaire qui est notée dans les catalogues, c'est une activité banalisée. C'est-à-dire que ça fait partie des activités habituelles de ces jésuites. Elle n'est plus prise en charge par des individus spécialisés. Alors, ça veut dire que ces chiffres qu'on a ici, c'est effectivement des chiffres, 63%, des gens qui sont désignés comme ouvriers d'Indiens à un moment donné dans leur carrière, mais ça ne veut pas dire qu'ils font ça tout le temps. Et donc, il faut les prendre un petit peu avec des pincettes, malgré tout. On peut quand même conclure, là, que moi, ce que je pense, c'est que cette activité se banalise au sein de l'ordre. Elle fait partie des activités que tout jésuite devait exercer à un moment de sa carrière, sans qu'on puisse déterminer s'il est spécialisé ou pas dans cette activité. Par conséquent, lorsqu'on trouve une majorité de créoles parmi les ouvriers d'Indiens, ça correspond aussi à ce moment de banalisation de l'activité. Ça correspond aussi à un moment où la catégorie de missionnaires aux frontières apparaît dans les catalogues. Et donc on a une espèce de catégorie supplémentaire missionario qui, elle, est vraiment mise en relief par rapport à ouvriers d'Indiens qui devient un peu banal. Je pourrais répondre un peu là-dessus après si vous avez des questions. Et ça, là, à ce moment-là, c'est exalté aussi bien dans les catalogues que dans d'autres textes. Comment mesurer alors la motivation pour la mission? Parce que c'est quand même ça qui m'intéresse au départ, c'est de savoir si ces gens veulent faire des missions ou pas. Et c'est ce que me permet de travailler la question de la langue. J'appelle ça le piège de la langue. Alors, c'est difficile de savoir combien de jésuites savaient les langues indigènes parce que c'est pas dans les catalogues. Vous avez un tout petit peu quelques indications, mais c'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Et bon, quelles sont les langues, hein? C'est le quechua et l'aymara principalement, des langues générales. Mais on a des débats au sujet de l'apprentissage et au sujet du caractère obligatoire de cet apprentissage, puisque le général Acquaviva, bien mal lui en prend, je pense, en 1584, impose que tous les jésuites qui vivent ailleurs, qui vivent dans des provinces, entre guillemets, missionnaires, apprennent les langues indigènes. Évidemment, c'est compliqué, parce que ça montre bien que ce n'est pas une évidence, hein, qu'il y a des débats là-dessus. On nous dit, bah, les vieux, comment ils vont faire? Ils sont trop vieux pour apprendre les langues, et là, s'ils n'apprennent pas les langues, bah, ils vont penser qu'ils désobéissent au général, donc ça pose un problème. Et puis, tout simplement, on nous parle dans les sources de créoles qui refusent d'utiliser les langues alors qu'ils les connaissent ou qui ne veulent pas apprendre une langue supplémentaire alors qu'ils ont des facilités. Et donc, un supérieur de la province écrit au général Acquaviva, « No hay quien les applique à Indios hein, », première chose, ceux qu'on recrute ici. Deuxième partie, ce serait très utile si votre paternité ordonnait qu'on ne les admette pas, enfin qu'on ne les ordonne pas si... ni n'entrent pas dans la compagnie comme professe ou même coadjuteur, s'ils ne font pas vraiment, s'ils ne s'appliquent pas vraiment à ce ministère, etc. Alors, dernier élément, parce que certains de ces créoles, alors qu'ils savent la langue mieux que ceux qui viennent d'Espagne, c'est vraiment très difficilement qu'ils s'appliquent à cette activité, et s'ils savent la langue, voilà, ils ne veulent pas, alors que c'est plus facile pour eux. Alors, Claude Acquaviva explique, nous dit, commente aussi le désir de certains jésuites de rentrer en Europe en 1596, Razón particular de este deseo creo que es la ocupación con los indios no es tan gustosa ni aplausible y por esto no se aficionan a aprender su lengua y así no tienen empleo proporcionado para vivir contentos. Así es très important pour Aquaviva que les gens vivent contents dans leur province. Donc des solutions sont, on essaye de trouver des solutions pour convaincre les jésuites de bien vouloir apprendre les langues indigènes parce que on en est vraiment là. Et au XVIIe siècle, on met en place ce qu'on peut appeler une exception linguistique en 1619. On a tout un débat là-dessus, qui consiste en quoi ? À accepter que les étudiants qui connaissent les langues indigènes passent dans la classe supérieure avec des résultats médiocres en théologie. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, hein, c'est un médiocridal, c'est-à-dire ils peuvent passer... ils font des études. Là, c'est 3 ans de d'artes, philosophie et 4 ans de théologie. Donc, pour avancer dans le cursus de théologie, on met en place une sorte d'exception américaine, péruvienne, avec des résultats médiocres. Si vous connaissez la langue, vous pouvez aller devenir professeur de 4 vœux, parce que finalement, c'est ça. Bon, ça pose un gros problème. Ça revient à accepter le fait qu'en Amérique, les professeurs de 4 vœux n'obéissent pas aux mêmes exigences que les autres dans le reste du monde. Et ça, c'est un problème pour un ordre qui est mondial, qui a la même règle partout, les constitutions, la ratio studiorum, enfin, c'est quelque chose de normé. Et c'est une exception qui est instituée en 1619 et qui est abolie en 1642, parce qu'il y a un nouveau débat pour dire, voilà, le problème, c'est que, porque sin saberla, van pasando con la mediocridad, intuito de que aprenderán después la lengua. Y después la aprenden muy de cumplimiento y han pasado con que predique un sermón tomado de memoria y quizás trabajado destro, hein, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas travaillé, hein, sin entender lo que dice. Y esto claro es que es fraude del dicho privilegio, du privilège de passer en classe supérieure en connaissant une langue indigène, enfin soi-disant, y de la mentalidad de nuestro padre, pues se deja, se queda sin saber la lengua y sin saber teología, con las calidades que la Constitución pide, y esto es abuso del privilegio y gracia, y como tal se debe quitar. Ça, c'est la congrégation de 1642 qui demande ça au général. On arrête cette exception linguistique parce que sinon on va faire des professes de 4 vœux ignares en langue et ignares en théologie. Bon, évidemment, c'est pas pratique, c'est pas très efficace pour la mission. Rien de tout cela, je le répète, hein, ne remet en cause l'engagement missionnaire de la Compagnie de Jésus en Amérique, hein, de façon globale, ni l'œuvre linguistique qui en a résulté. Ça prouve uniquement que cet engagement missionnaire n'est pas une évidence, qu'il n'est pas forcément partagé par l'ensemble des membres et qu'il résulte d'une négociation permanente au sein de l'ordre. C'est juste ça. Je ne dis pas que les jésuites ne sont pas des missionnaires. Mais pourquoi faut-il négocier au sein même de la Compagnie de Jésus, parmi les créoles principalement, la nécessité de l'action missionnaire ? C'est-à-dire le contact, sinon quotidien, du moins régulier, avec les populations indigènes. C'est pas uniquement, il ne s'agit pas uniquement d'une réticence face à l'inconfort des missions volantes ou plus lointaines. Hein, courir les chemins dans le froid, faire face à la neige, à la tempête, hein, dans les Andes, faire face éventuellement au mal d'altitude, dormir et manger sur les chemins, et aussi se confronter à l'hostilité des curés de paroisse ou des Indiens des forêts. Apprendre la langue, dans une lettre du général Mercurian dans les années 70, était un gage de ressemblance avec ses ouailles. Et il le dit très clairement dans cette lettre. Mais pourquoi un jésuite d'origine créole aurait-il voulu ressembler à un Indien ? Je vous pose la question. Au contraire, toute son éducation domestique l'incitait à se distinguer le plus possible des Indiens, hein, au sein d'une société où l'Indien, c'est le statut du vaincu, celui qui se trouve au plus bas, avant l'esclave. Entrer dans la Compagnie de Jésus, c'était accéder à la fois à un ordre religieux intellectuel, grâce auquel il était possible de briller en société, d'accéder à des chaires universitaires ou à la prédication urbaine de prestige, autant d'arguments qui n'incitaient pas du tout ces jeunes étudiants à vouloir ressembler aux Indiens. On retrouve cette volonté de distinction d'une autre manière au sein des élites urbaines qui financent les ordres religieux chargés de convertir et d'évangéliser les populations andines. Alors peut-être que j'ai déjà passé trop de temps à parler, donc je peux éventuellement m'arrêter et puis je peux vous en parler d'une autre manière. Parce que là, je peux vous résumer ce que je veux dire. Cette question du devoir d'évangélisation et du patronage laïque, Voilà, j'ai étudié la manière dont les encomenderos ont financé les missions et se sont investis dans l'action missionnaire de manière indirecte. Soit ils ont commencé par payer les prêtres et les frais du culte, ça c'est une obligation, c'est un devoir. Très bien. Ensuite, on perçoit cette participation à travers la charité de cette élite vis-à-vis des Indiens dans les testaments. Et ça se passe à un moment, au XVIe siècle, dans les années 1550-70, où la législation prévoit régulièrement d'amoindrir, de contrer le pouvoir des encomenderos sur les Indiens et le pouvoir des encomenderos en général. Et donc, ce qu'on peut percevoir, c'est en même temps que les encomenderos se sentent en danger sur leur pouvoir sur les, dans leur pouvoir sur les Indiens, ils procèdent à du financement de l'activité missionnaire. Et c'est cette question-là que je trouve intéressante. Ça se manifeste donc par des donations pieuses à partir des années 1540. Alors, la principale hypothèse pour moi, c'est que la participation financière à l'évangélisation, ça contribue à soulager la conscience des acteurs, comme du roi. Mais c'est aussi une forme d'adhésion aux normes religieuses tridentines, c'est un élément, à l'affirmation du pouvoir royal. Mais aussi, et je pense, je le pense vraiment, c'est un élément fondateur du statut social de ce groupe particulier et un moyen de perpétuer un pouvoir sur les Indiens. Alors, très simplement, si je résume, pourquoi je parle de patronage laïque ? Parce que dans le cadre de l'encomienda, au tout début, les encomenderos, alors que en finançant le curé dans la paroisse, en contrôlant le curé dans la paroisse, en contrôlant l'église à l'intérieur de la paroisse, était dans un statut de patron, proche de celui des patrons d'églises médiévaux, si vous voulez, et du seigneur médiéval, patron de son église. Les églises au Moyen-Âge, le blanc manteau d'église qui couvre l'Europe, au Xe, XIIe siècle, est lié à du patronage laïque, c'est du financement privé. Et donc, il y a une dimension seigneuriale et nobiliaire à être ce patron laïque d'une église. Donc, l'encomendero, au départ, il a ce statut d'une certaine façon. Sauf que ce statut lui est retiré au fur et à mesure que les institutions ecclésiastiques s'installent, que la réforme tridentine se met en place. Les évêques nomment les curés et les vice-rois, comme le disait Pierre tout à l'heure, ont cette prérogative de nommer les curés. Donc, une confiscation par le pouvoir de cette faculté de choisir le curé de l'encomienda dans laquelle ils sont. Donc, à partir de là, les encomenderos trouvent d'autres moyens, si vous voulez. Et ce que on peut étudier dans les textes, c'est que quand ils font, il y a toute une période pendant laquelle ils sont amenés à restituer les biens aux Indiens. Je pourrais en reparler, mais surtout quand les Espagnols s'installent, enfin quand les ordres religieux s'installent, que ce soit les Jésuites ou d'autres d'ailleurs, on trouve énormément de textes de donation à ces ordres religieux dans lesquels les mêmes encomenderos expliquent qu'ils veulent des missions. Soit ils veulent que les Augustins s'installent dans la paroisse et ils leur donnent de l'argent pour leur fondation de couvent. Moi, j'ai un encomendero comme ça qui fait les deux. Il donne aux Augustins pour la fondation de la Paz et il leur donne une paroisse, une encomienda. Et en même temps, il demande aux Jésuites de faire la même chose. Mais Jésus dit non, nous, on ne prend pas de paroisse. Mais alors, vous faites des missions auprès de mes Indiens. Et la plupart des donations, des premières donations de fondation, Arequipa, La Paz ou même Cusco que j'ai trouvées, on a, c'est dans les années 1570 et 80, puisque c'est le moment où les Jésuites s'installent, on a ces clauses, en fait, des clauses missionnaires à l'intérieur des textes de fondation, qui sont des textes notariés. Et dans ces textes, plusieurs choses, ça donne un statut dans l'église des Jésuites, puisqu'ils peuvent être enterrés dans l'église. Alors ça, c'est la deuxième partie. Ce que je vous disais sur la l'encomienda ici, c'est qu'au début, le pouvoir de l'encomendero, il repose aussi sur le curé. Ça, c'est une. Et l'encomendero, lui, est en ville. Et puis, sur la restitution, je passe. La fondation pieuse pour la mission, c'est justement le moment, la manière par laquelle ces gens en demandant des missions auprès des Indiens, de leur encomienda, nomment des Indiens précis avec lesquels ils ont un lien, qu'ils veulent en quelque sorte préserver par l'intermédiaire de l'institution, justement au moment où ce lien est en train d'être en quelque sorte distendu par le pouvoir royal qui refuse que les encomenderos vivent dans le cadre de l'encomienda, et qui vivent sur place, les empêchent de vivre sur place, et qui fait de l'encomienda une rente pure et simple, puisqu'ils n'ont quasiment plus le droit d'employer les Indiens directement. C'est le moment où la mita se met en place. Et donc, c'est intéressant de voir comment, à travers les donations, il y a une sorte de revendication d'un pouvoir sur les Indiens par le biais de l'institution missionnaire, d'une part, et puis à chaque fois, on a le mot patron qui revient, et je finis là-dessus, c'est-à-dire que dans les textes de donation, vous avez ces encomenderos qui se désignent comme patron de l'ordre. Ça ne plaît pas du tout aux jésuites, parce qu'ils disent que c'est un acte notarié, c'est un acte légal, si on dit que c'est des patrons, ils vont avoir le droit de regard, donc ils refusent. Mais quand on voit au XVIIe siècle, d'autres actes de donation, ça se généralise complètement, le mot patron. Alors, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que cette démarche des encomenderos de la fin du XVIe contribue à construire une distinction sociale et religieuse entre les Indiens, qui sont les néophytes et dont la conversion est en devenir, et les Espagnols, qui revendiquent par là aussi un statut nobiliaire, parce que cette question de la fondation de couvents, c'est une constante dans la pratique nobiliaire en Espagne. On a donc une forme de cohérence entre cette attitude de mise à distance de la part des jésuites issus de la société hispano-américaine, des Indiens, à travers le refus, relatif de la mission, une mise à distance qui s'inscrit dans l'espace andin, à travers le caractère éminemment urbain de ces élites, laïques ou religieuses, et le fait que les missions, elles, se déroulent dans un espace rural, dans les lieux reculés. L'idée donc que cette ville hispanique et catholique s'oppose à un espace missionnaire extérieur qui est mal défini et qui fait office en quelque sorte de repoussoir, tout en maintenant le contact et le lien, je veux dire, seigneurial, en tout cas pour les encomenderos, avec les Indiens à travers la mission. Merci.